je lance l'enregistrement.
Ok.
Vous êtes dans Bruit de quartier, la nouvelle émission de Jet FM sur le quartier Bellevue. Tous les premiers mardis du mois, à 17h, on tend le micro à celles et ceux qui vivent à Bellevue au quotidien. Les habitants, les commerçants et les passants nous racontent leurs souvenirs, leurs coups de cœur, leurs idées pour le quartier.
Et voilà.
Ah, moi je vais y aller. Avec pas de...
Dans Bruit de quartier, on découvre Bellevue à hauteur d'oreille.
J'habite à Romarolan.
Oui, j'habite ici.
Pas Bellevue, mais je travaille depuis très longtemps.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2, je suis Victor, et bienvenue dans Bruit de quartier, la nouvelle émission de Jet FM sur le quartier Bellevue. Tous les premiers mardis du mois à 17h, on tend le micro à celles et ceux qui vivent à Bellevue au quotidien. Les habitants, les commerçants et passants nous racontent des souvenirs, des coups de cœur, des questions ou des idées pour le quartier.
Jet FM.
Jet FM.
Jet FM.
Jet FM.
91.2.
Ce mois-ci, Camilia tend le micro aux passants pour savoir de quoi il rêve pour le quartier. De mon côté, je me suis lancé dans l'interview de Tengiz Dalakishvili, entraîneur de lutte au club athlétique nantais et visé par une obligation de quitter le territoire. Enfin, Franz se balade dans la nature à Bellevue. L'émission Bruit de quartier, c'est aussi une émission où on apprend à faire de la radio et on commence avec Camilia qui réalise son premier micro-trottoir.
Alors pourquoi vous êtes à Bellevue aujourd'hui ?
J'ai cours au lycée Albert Camus et ça fait 3 ans que je suis scolarisée là-bas. Du coup. J'aime bien et je suis restée ici.
Oui, j'habite à Romarolan.
J'habite ici à Croix-Bonneau.
Ouais, j'habite à côté. J'habite au Sextant. Au Sextant, c'est à côté.
Là, je suis au lycée, je suis en BTS Tourisme.
Alors non, j'habite pas à Bellevue, mais je travaille depuis très longtemps.
Voilà, je connais rien de Bellevue en fait, et du coup, c'est juste mon pédiatre en fait, c'est le seul qui prenait de nouveaux patients.
Du coup, pour vous, à quoi ressemblerait le quartier dans quelques années ?
Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense qu'il va s'améliorer parce que je vois qu'il y a des travaux, etc. Il va devenir encore plus beau, je pense. La place derrière, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que des petites épiceries. Il y avait un taxiphone, il y avait une boucherie. Et là, ils ont tout enlevé.
Comme il est actuellement, non ? Je ne sais pas.
Oui.
Oui, les bâtiments, les immeubles, je trouve qu'ils ont été améliorés. Des boulangeries, de nouveaux appartements qui ont été rénovés aussi.
Il y a tout amélioré, je dirais. Il y a des actions dans le quartier, mais je pense qu'on devrait plus aller faire du aller vert. Et que les collèges et lycées, notamment le Sacré-Cœur, Camus, Debussy, devraient faire plus de choses pour le quartier, pour développer ça. Mais non, il y a Bellevue, Mendès France, en train d'évoluer pour le mieux ou pour le pire.
Je dis la place du marché. Il y a le marché, je trouve qu'on aurait pu faire de belles choses là-bas, mais que c'est assez vide et que c'est désert.
Mettre un nouveau terrain de foot là, par exemple, à la place des bâtiments. Pourquoi pas mettre une nouvelle boucherie, un peu moins chère, parce qu'ici c'est un peu cher.
En vrai, je trouve qu'en vrai, ça améliore constamment. En vrai, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les jeunes.
Oui, pas mal de changements. Je trouve que là, le quartier s'embellit comparé à avant. J'avais l'impression qu'il y avait un peu plus de violence, du coup là j'ai l'impression que ça s'apaise.
Ah si, vite fait, il y a les bâtiments là-bas qui ont changé, mais après je suis là que depuis 2 ans.
Plus calme depuis 1 an je dirais. Un peu dû aux travaux, quelques descentes de police, mais moins de trafic à côté.
Ouais, les bâtiments, parce qu'en vrai ils sont un peu vieux. Genre les améliorer, les rénover. Mettre plus de parcs.
Vous avez un endroit du quartier qui compte pour vous ?
Ici, le taxiphone, parce qu'il était à ma tante. Elle était là-bas pendant 25 ans. Et vu qu'il devait l'enlever, elle est partie.
Non, pas trop. Je viens d'arriver, donc c'est un peu une découverte. Voilà.
J'ai pas spécialement d'endroit qui m'est cher à Bellevue. C'est plus les habitants, en fait. Plus les habitants, parce qu'on... Comme je vous ai dit, moi je bosse à l'association Regarde, c'est une association de bien-être. Moi-même je suis le responsable du pôle jeunesse ado. Et l'idée c'est de rassembler tout le monde et en faire un seul et unique Bellevue, pas un Bellevue découpé Laurier, Mendès France, Romanée, etc.
Il y a des parcs qui sont bien, genre c'est nos parcs d'enfance parce que ça fait hyper longtemps. Il y a le parc vers l'école Jean Zé,
mon quartier, l'Arlière Nord du coup.
C'était la place où il y avait les bâtiments qui ont été démolis, juste là, où il y avait la boulangerie, tout ça. Je traînais là-bas quand j'étais petite, du coup, c'est un endroit qui,
qui m'a marqué.
Ouais, j'aime bien l'épicerie du Laurier là à côté aussi, c'est stylé. Et la boulangerie aussi.
Bon, en vrai, je dirais au lycée, enfin dans ce coin, quoi, donc vu que je connais mieux. Le lycée Sacré-Cœur-la-Salle.
Mon magasin, ouais. Enfin le magasin de mon père.
Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.
De rien, il y a pas de souci.
Merci beaucoup.
Et voilà.
Ah, moi je vais y aller, j'ai pas le
temps. Jet FM. 91.2.
C'était les habitantes et habitants de Bellevue au micro de Camilia qui se demandaient ce dont ils et elles rêvaient pour le quartier. Et on continue maintenant avec Tengiz, professeur de lutte et visé par une OQTF. J'ai pu réaliser son portrait.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans l'émission Bruit de quartier. Et pour redonner la parole à celles et ceux qui font vivre Bellevue, on accueille Tengiz Dalakishvili. Bonjour Tengiz.
Bonjour.
Alors Tengiz, tu es lutteur, mais du coup également professeur de lutte. C'est le plus vieux club de lutte français, c'est bien ça?
C'est exactement ça. Cet club, il est défendu depuis 1896. Je suis éducateur sportif et également je fais l'étude d'OGEPS Lutte. Et en ce moment, je ferai la demande aussi pour que j'obtienne BPJEPS en VAO.
Parce que toi, tu es arrivé en France il y a 7 ans, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours avant d'arriver en France?
En fait, la lutte, j'ai fait à l'âge de 5 ans. Et j'ai fait ça en Géorgie, dans mon pays natal, jusqu'à 17 ans. Et à 17 ans, j'ai parti en Suède et je continue toujours à faire la lutte. Et là-bas, je faisais presque toutes les compétitions qui étaient proposées dans le pays et également des tournois internationaux. La dernière, avant de partir, j'ai fait championnat de Scandinavie où j'ai pris première place. Et la suite, à cause des raisons personnelles ou la famille, on est arrivé en France. Et pareil, en France, j'ai continué à faire du sport. Mais c'était un peu plus compliqué parce qu'en France, il n'y a pas partout dans toutes les villes la salle des luttes où ce n'est pas un sport très, très connu dans toutes les villes. Et je m'entraînais toute seule, sans coach, sans des partenaires. Mais malgré ça, j'avais quand même des réussites, participer à pas mal de compétitions à l'intérieur, y compris des tournois. Il y a plusieurs pays qui participent et j'avais pas mal de palmarès à l'intérieur du pays.
Toi, la lutte, c'est un petit peu toute ta vie. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la lutte, dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça t'apporte?
En fait, on peut dire que c'est mode de vie, en fait. Je ne compte pas des heures, mais au travail, même aux entraînements, pour moi, n'existe pas cette système horaire. Je ne compte rien du tout. Même à la salle, quand je l'accompagne des athlètes, je ne regarde pas le temps. Ça, je fais avec tout mon corps. C'est à la fois c'est ma passion et à la fois c'est mon travail.
Et donc, tu accompagnes pas mal d'élèves. Il y a 200 licenciés, il me semble.
C'est exactement ça.
Quels sont tes objectifs un peu avec ceux à qui tu transmets la lutte? Est-ce que tu as d'autres objectifs que du purement sportif?
J'aimerais bien monter cette club, que ce soit un meilleur club dans toute la France. Et aussi faire connaître la discipline de la lutte. Je ne comprends pas pourquoi en France, la lutte, ce n'est pas un sport connu. Parce que la lutte, c'était créé en France. C'est les Français qui ont inventé ce style. Par exemple, la lutte gréco-romaine, ça s'appelle gréco-romaine en ce moment. Mais à la base, ça s'appelle lutte française. Du coup, c'est un sport national, c'est un sport français. Et je ne comprends pas pourquoi c'est décliné à ce point-là que c'est mal connu. Et j'aimerais bien montrer ça, que malgré les étrangers, il y a des Français qui peuvent le pratiquer. Et c'est bien le sport français et il faut soutenir cette discipline.
La lutte, c'est aussi, il y a toute une culture du dépassement de soi, de la rigueur et tout ça. C'est quelque chose que tu essaies de transmettre aussi dans tes cours.
Des valeurs, des disciplines, l'humilité, respect l'un l'autre, à l'entraide, l'amitié. À la salle, on crée une ambiance comme dans la famille. Et on forge surtout des bons citoyens. Ce n'est pas juste développer le club, ça c'est d'autres choses, mais il y a l'autre chose, j'aimerais bien éduquer des bonnes générations. Là, je travaille en ce moment dans un quartier priorité, entre guillemets, où il y a beaucoup de gens de quartier qui viennent à la salle et j'aimerais bien participer à leur éducation. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, c'est juste ma passion et j'aime bien le faire. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de miracle.
Oui, donc ce n'est pas juste du sport, tu essaies vraiment de proposer des valeurs et un mode de vie à ceux qui viennent à tes cours.
C'est exactement ça.
Aujourd'hui, tu es dans l'actualité parce que tu es visé par une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Qu'est-ce que tu risques exactement aujourd'hui au quotidien?
Expulsion de la pays. Par exemple, le jour à la salle, il y a la police qui sont venus. Moi, j'étais pas là, je suis venu un peu plus tard, mais mes élèves, ils étaient à la salle déjà, ils faisaient un peu de technique. Et ils sont restés 10-15 minutes, ils ont demandé qui est le coach. Imaginez-vous, si moi j'étais là-bas, j'aurais dû être expulsé.
Petite parenthèse et prenons 2 minutes pour revenir sur ce qu'est vraiment une OQTF. L'obligation de quitter le territoire français est une mesure administrative qui impose à un étranger de quitter la France. Elle peut être provoquée par 4 motifs, l'absence de titre de séjour valide, son refus ou son retrait. Elle peut aussi s'appliquer à quelqu'un considéré comme une menace à l'ordre public, qu'elle ait déjà été condamnée ou non. En 2024, la France a délivré plus de 140 000 OQTF. Dans la majorité des cas, l'application des OQTF est laissée aux soins de la personne l'ayant reçue. Elle dispose de 30 jours pour quitter le territoire par ses propres moyens, mais elle peut aussi être contrainte. Dans ce cas, elle peut passer par l'enfermement en centre de rétention administratif en attente d'expulsion. Il est donc important, dans le cas présent, de rappeler qu'une OQTF ne vise pas uniquement les criminels, mais peut toucher n'importe quel étranger. Seulement 7% des OQTF sont liés à ce motif. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur les fameux centres de rétention administratif, on vous propose une émission dédiée à ce sujet, avec notamment l'intervention du collectif Colère et d'une avocate. Rendez-vous mardi 10 février à midi sur JetFM 91.2. On retourne maintenant à notre portrait. Comment est-ce que la préfecture et toi t'as expliqué cette décision dans le papier que t'as reçu?
En fait, le papier qu'on a reçu, tout le monde bien loue. C'est pas un secret. Il était mentionné que je suis pas assez intégré en France. En France, c'est pas mon point d'attachement et ça poserait pas de problème si je retourne en Géorgie. Et en plus de ça, que je n'aurais pas assez de salaire pour vivre. Mais pourtant, le club, il me propose un contrat de travail à 35 heures. Et c'est un peu plus que SMIC même. Et aussi, c'était le sujet qu'ils ne savent pas où j'habite exactement, etc. Mais à France 3, la télévision qui élevait nous, la propriétaire des maisons, il a bien parlé de moi. Il a mentionné que telle personne, il habite chez moi depuis 4 ans.
Et donc, du coup, et toi, le club aussi, il t'aide au quotidien à essayer de proposer une situation avec un contrat de travail et tout ça?
C'est exactement ça. Le club, le bureau qu'on a en ce moment, ils me soutiennent. Franchement, j'ai rien à dire. Ils sont vraiment top. Ils sont avec moi à 100%.
Et toi, comment est-ce que tu as réagi quand tu as reçu cet OQTF?
J'étais très déçu et plutôt j'étais trop humilié parce que on me donne OQTF. Et il y a des gens qui font des criminels, qui font des violences, qui vendent des drogues, ils sont aussi des OQTF. Pourquoi on me met dans le même niveau que ces gens? Et moi, j'ai participé à l'éducation, tout ce que j'ai fait, c'est rien à cacher. Aux réseaux sociaux, je partage tout, le monde voit tout très très bien. Et je suis influenceur, mais j'ai l'influence des bons côtés, d'éduquer des bons citoyens en France.
Toi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme recours pour essayer d'annuler ou d'éviter l'OQTF?
En fait, j'ai utilisé tous les recours possibles. C'était recours auprès de juges, mais ça, je ne compte pas sur ça forcément parce que ça prend entre 18 mois et 2 ans. Imaginez-vous, d'ici dans 2 ans, c'est très difficile pour moi de survivre jusqu'à cette période. Ça m'empêchera pour ma formation, pour mon étude, pour travailler, pour tout ça. Et aussi, on a fait recours gracieux auprès du préfet pour le préfet, il réexamine mon dossier. Mais pourtant, depuis, il y a silence. Et on a fait la demande. Il y a des députés qui sont intervenus auprès de la préfecture. Il y a un des maires d'une ville qui est intervenu. Maire de Nantes, il dit qu'elle est intervenue, mais on ne sait pas trop parce que depuis, j'ai aucune nouvelle d'elle et elle n'est même pas venue à la salle. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Et voilà, j'ai gros soutenir des parents, de l'association, etc. Il y a les parents des associations, on m'a proposé faire un rassemblement devant la préfecture. Moi, je ne suis pas fan d'organiser des rassemblements, des manifestations. Ce n'est pas dans mon nature et mon mode de vie. Mais en ce moment, je vois que je n'ai pas d'autre solution, je n'ai pas d'autre choix. Et je pense que je les suivrai dans ce parcours. Ce n'est pas moi qui organise, c'est eux qui vont organiser. Ils vont même moi tenir au courant la date, etc. Et même, on a pensé, pourquoi pas, sortir les tapis de lutte. Poser devant préfecture et faire l'entraînement devant préfecture. On va utiliser le slogan « Si le préfet ne vient pas chez nous, on va chez le préfet ». Et ça va être vraiment un rassemblement très calme. Et même les télévisions, on m'a proposé des journalistes qui vont venir là-bas filmer et diffuser après dans télé ou dans des journaux ce qui s'est passé là-bas.
Merci beaucoup de nous avoir suivis sur JetFM 91.2. Merci à toi Tengiz pour ton intervention.
Merci à toi aussi.
JetFM.
91.2. Merci à Tengiz pour cette interview et rendez-vous dans le prochain épisode pour un reportage en immersion dans le complexe sportif de la Durantière pendant un entraînement de lutte.
N'éteignez pas la radio, Bruit de quartier continue avec une balade autour de la nature dans le quartier Bellevue.
Qu'on voit pas, bah, on l'imagine. Et donc on est aussi dans une saison où on peut être beaucoup plus sur l'imaginaire et puis prendre le temps de se poser la question de comment ça fonctionne en fait. Toute cette vitalité, prendre le temps d'observer différemment son environnement. Peut-être un petit peu comme on visite un quartier quand on est une visite guidée historique. Mais d'inclure le végétal. Quand vous allez au cinéma ou quand vous allez au musée, en fait, vous allez toujours dans le même lieu, mais il ne se passe jamais la même chose. Voilà. Ça change tout le temps, donc vous pouvez venir et revenir et vous aurez toujours une nouvelle exposition, un nouveau regard.
Soyez les bienvenus au jardin du Bois de la Muse.
Merci.
Vous êtes en train d'admirer ce beau buldeia.
Ouais.
Ouais, arbre à papillons. Mais en fait, il reste la base. Je vais le tailler là, carrément là, quoi. Il restera plus rien, mais après, il explose.
Alors, je vous accueille au jardin du Bois de la Muse, jardin familial du Bois de la Muse, qui sont nés en jardin familial en 1988. J'ai découvert cette association en moi-même faisant une demande de parcelle il y a maintenant plus de 15 ans de ça, auprès de la ville, donc de la mairie. J'ai déposé une demande de jardin et au bout de 6 ou 7 ans, j'ai reçu un courrier et une réponse positive sur ce jardin ici, sur ce site des bois de la Muse. Et voilà, j'ai choisi une parcelle ici et je n'ai plus quitté cet espace depuis. Alors, avec mon équipe, j'assure la gestion du site. Je suis notamment la présidente de l'association des jardins du Bois de la Muse. Entre parenthèses, je suis tombée amoureuse. C'est un espace bucolique de nature au milieu du quartier Bellevue. Donc pour moi, c'est un poumon de verdure. Et il apporte l'occasion de belles balades, de découvertes, de contemplation, une pause en ville.
Cette nature spontanée, donc c'est vraiment comment la cohabitation entre ce monde végétal, que ce soit de la pelouse aussi, je parle des petites herbes, hein, mais même si j'aime beaucoup les grands arbres.
On peut aller butiner ça, c'est pour avoir un vol stationnaire, hein, ou alors il faut être plutôt insecte rampant. C'est pas assez évident. Alors là, on voit pas forcément les cyclamens, ils sont bien au chaud, hein. Vous avez vu l'épaisseur. L'épaisseur de feuillage dans lesquels ils sont installés.
J'aime beaucoup l'hiver parce que c'est une saison où on voit à travers, hein, en fait. Quand il n'y a plus le feuillage, on voit l'architecture des arbres, on voit les branches, on voit si elles sont flamboyantes, si elles sont tortillées, si elles sont... Voilà, ça raconte aussi des choses de comment l'arbre évolue. On voit à travers, puis on voit les oiseaux un peu plus facilement, même si là ils commencent à chanter. Et puis on peut aussi farfouiller pour essayer de reconnaître les arbres. Alors il n'y a pas les feuilles sur les arbres, mais souvent elles sont au pied. Et puis on peut même voir les fruits, donc en fait on s'amuse à enquêter. Donc c'est
le fruit, c'est effectivement ce qui va... l'enveloppe qui contient la graine, ce qu'on appelle le fruit. Alors les fruits, nous, ils sont plutôt charnus, juteux, mais parfois ils sont plutôt secs.
On voit les écorces. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir. Et puis, il y a des arbres qui ont encore leurs feuilles aussi. Il y a les codifères aussi.
Donc là, c'est vraiment un jeune avec plutôt les feuilles.
Ah non.
Il est là pointu.
Ouais. Ah, c'est sûr. De ça,
vous voyez. Ça, c'est les chênes d'Amérique. Alors, ça peut être chêne du marais ou chêne rouge. Ils sont vraiment, vraiment plus découpés. Et puis là, on en a un autre plus arrondi, qui est sûrement pas très grand. Mais bon, là, ce qu'on va voir comme feuille maintenant, comme témoignage au sol, ce sera surtout des feuilles de chêne, parce que les autres feuilles sont. Les autres arbres se sont dégradés. Ouais, elles sont tombées plus tôt, ici. Parce que les feuilles ne tombent pas toutes au même moment, comme les feuilles n'apparaissent pas toutes au même moment. Vous allez avoir des arbres qui font des feuilles dès le mois de mars, avril, et dans les ados, ça se fait plus en mai.
Ouais.
Ça s'étale comme ça, comme la floraison va s'étaler, comme les frisaisons vont s'étaler aussi.
Tout ça, bah, c'est pas juste pour faire de la décoration, hein, c'est que c'est tout ça, ça fait partie d'un système, que c'est le point de départ de l'alimentation d'insectes, d'oiseaux qui ont mangé les graines, de petits mammifères, enfin, c'est tout un cycle. C'est un moment de vraiment, on est sur l'observation, sur la contemplation et pas dans l'utilité, en fait. C'est pas, oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec et à quoi ça va nous servir. Voilà, de voir l'incroyable diversité de formes, de techniques, de stratégies pour que les plantes se développent. Et que, voilà, on fait partie de cette nature et c'est vrai qu'il y a des moments quand on est complètement absorbé par l'observation de l'environnement, comme ça, on se sent complètement dedans, en fait. On en fait partie.
Alors là, regardez, on peut profiter, de l'architecture des arbres. Peut-être que déjà, rien qu'en regardant les branches, vous pouvez un peu distinguer. Déjà, on voit quelles sont les différentes essences. Et puis, il y en a certains avec des branches bien tortueuses, celui qui est là-bas, avec le tronc très strié.
C'est quoi, il est coupé, il a été...
Ça, c'est... Ouais, il a été, en plus, il a eu un petit accident, là, c'est un chêne. Des chênes tortueux, des chênes avec vraiment comme des bras, comme ça, qui sont un petit peu tortueux.
Dans des parcs qu'on côtoie pour aller régulièrement avec les enfants, ou promener le chien, ou faire son jogging, on a encore moins le temps de s'arrêter. Des personnes qui me disaient ouais, pendant 15 ans je suis venue avec les enfants, mais en fait je ne connais pas ce parc. C'est ça, en fait, moi, c'est d'accompagner les personnes à une redécouverte, à poser le regard, à s'interroger, et puis après c'est autonome, hein. Après c'est certains me disaient que c'était difficile parce que maintenant le moindre arbre sur le bord de trottoir était une raison de s'arrêter et que c'était difficile d'arriver à un rendez-vous. Parce que du coup, ça donnait tout d'un coup une autre dimension au trajet.
C'est vraiment les racines.
Ouais,
hein. Alors même dans les racines, il y a des petites réservoirs d'eau.
Oui, c'est ça.
Ouais, pour les oiseaux, ça c'est super. Ils peuvent venir se baigner et puis ils peuvent venir voir. Et puis ouais, donc c'est la base là qui se... Les racines un petit peu apparentes comme ça qui pénètrent dans la terre. Et puis l'écorce qui... Alors là, c'est un vieux sujet, l'écorce est assez lisse finalement.
Ça peut être sujet aussi à en nommant aussi, en reconnaissant si jamais il y a des plantations qui ont été faites. En les nommant, ça permet de mieux le connaître et on respecte mieux ce qu'on connaît. Quelqu'un dont on connaît le prénom, tout de suite on devient plus intime. Donc là c'est ça aussi, un petit peu en apprenant. Alors, c'est pas reconnaître pour reconnaître, mais c'est vraiment toujours avec du sens. Les plantes que je vais choisir d'aborder, ce sont des plantes qui vont raconter quelque chose.
Il est un petit peu, il est tellement grand. Oh là là, regardez par en dessous, comme c'est impressionnant. Ces branches là,
elle est impressionnante, cette branche.
Ah, c'est presque minéral.
Je trouve qu'il y a quelque chose.
Ah,
en fait, c'est presque des lianes.
Oui, c'est ça. J'ai
l'impression que c'est plusieurs lianes.
Non, qui ça comment, là,
c'est un charme.
Un charme.
Il a beaucoup de charme. Et quand vous regardez les rameaux, on peut deviner qu'il y a les bourgeons, là, on les voit bien. Hein.
Aborder l'adaptation de la nature en ville, voir que certaines plantes en profitent énormément, finalement, de notre aménagement. Quand même, ça les a même fait se développer plus que... on peut avoir plus de pâquerettes dans une ville que à la campagne, par exemple, dans un champ. Les pâquerettes, aiment beaucoup la ville.
compliqué.
Les frênes sont des arbres qui c'est pas en forêt, ils sont souvent assez isolés et puis ils aiment beaucoup l'eau. C'est vraiment des arbres qui ont une racine pivot, la racine, c'est une grande racine pivot qui va très profonde, donc on peut aller pousser, profondément et qui permet en plus une stabilité dans des sols qui peuvent être un peu compliqués. Exactement.
Mais c'est aussi de toucher, d'amener à toucher les différentes textures qui peuvent être douces. Parfois, il y a de la douceur, il y a de la soie à des endroits auxquels on ne fait pas du tout attention, comme l'intérieur d'un boc de châtaigne, c'est tout doux, ou de hêtre.
C'est le hêtre, une faine, on appelle ça la faine de hêtre. Donc là, il n'y a pas de. J'en ai pas identifié, il y en a peut-être. Mais là, c'est plutôt. Ici, on a plutôt des hêtres. Différents types de chênes et puis frênes. On peut voir ici. Ouais, et même des bogues à l'intérieur, des bogues de châtaigne. Tu les vois. Ouais,
velours.
Et même les châtaignes à l'intérieur des bogues de châtaigne, c'est pas vu comme ça. Tout velours. Donc dans quelque chose qui paraît rugueux à l'extérieur et qui est tout doux à l'intérieur. C'est une personnalité.
À écouter aussi, effectivement, à se poser. Donc, ça peut être effectivement un moment où on s'arrête et puis on va voir le bruit du vent dans les feuillages, on va voir les oiseaux. Et puis toute cette rumeur de la ville, petit à petit, va disparaître et on va se rapprocher de plus en plus. Mais c'est ça, en fait, c'est revenir à ses sens, revenir à soi. Et c'est ça aussi qui amène beaucoup d'apaisement et beaucoup de bien-être.
C'est un noisetier.
Ah bon ?
Ouais, le noisetier fait ses chatons. Il y a pas mal de, comme les peupliers, c'est ce qu'on appelle des chatons. Comme ça, qui est la fleur mâle. Donc à l'intérieur, il y a le pollen. Là, pour l'instant, le pollen n'est pas encore déployé. Mais donc, à l'automne déjà, on les a comme ça, sous cette forme. Et puis là, ça commence déjà à se déployer. Et puis après, il y a tout le pollen. Et ce qui est intéressant avec le noyer, là on ne le voit pas forcément tout de suite, le noisetier, c'est que les fleurs mâles et femelles sont sur le même arbre, sur les mêmes branches. Et ça, ici, c'est des fleurs femelles qui ne sont pas encore écloses, les petites, ici. Et que vous pourrez, alors peut-être qu'on pourrait voir, elles ne seront pas beaucoup plus grosses que ça. Elles sont rouges, elles s'ouvrent et donc elles sont, voilà, on est sur un arbre avec... qu'à les organes mâles et femelles qui sont même. Parce qu'il y a des arbres qui sont séparés, comme les arbres fruitiers très souvent. Et donc là, voilà, les bourgeons peuvent se manger, pas à ce stade-là, c'est encore un peu amer. Et les fleurs mâles. Mais en tout cas, là, ça fait un beau mouvement.
Dans 2 mois, c'est
joli, oui.
Ah, même avant. Ça, au moins 2 mois, oui. Ça peut être mars, février, mars, en fonction des températures. Donc voilà, on a le noisetier, donc il se prépare toujours très tôt. Comme ça, après, quand il y a l'énergie qui arrive, il n'y a pas à tout faire. S'il fallait refaire perdre tous les bourgeons à la sortie de l'hiver, alors qu'il n'y avait pas de ressources d'énergie, ce serait pas possible. Donc tout est déjà préparé à l'automne.
Je suis plutôt quelqu'un qui recherche toujours plein de coins de nature, donc pas tant que ça. Par contre, ça me permet d'observer et de poser mon regard beaucoup plus attentivement sur des choses que je ne vais pas faire seule. Et Olivia a un peu ce côté-là, de nous montrer certains aspects qu'on ne voit pas seul. C'est vrai qu'on a tendance à penser belle vie avec plein de quartiers résidentiels et grands appartements. Et alors qu'en fait, il y a des pépites partout où on peut poser le regard.
JetFM.
JetFM.
91.2.
C'était Franz qui est parti en balade dans le quartier Bellevue avec Olivia autour de la nature qui nous entoure au quotidien, même en hiver. Vous êtes toujours sur JetFM 91.2 et c'était l'émission Bruit de quartier, la nouvelle émission de JetFM sur le quartier Bellevue. Retrouvez le podcast sur notre plateforme Castopod dès demain. Merci à Camilla et Franz pour ces premiers pas réussis dans la radio et à nos invités Olivia et Tengiz. Merci aussi à la Cité éducative de Bellevue et le FDVA2 qui nous ont permis de créer cette émission via le projet de la cartographie sonore de Bellevue.
JetFM 91.2.